Il est mardi, 13h. Bienvenue dans l'émission Ondes Positives, une petite heure ensemble pour partager de bonnes ondes et faire le plein d'énergie. C'est parti. Et pour ce faire, je reçois cette semaine Marie-Gabrielle Brun. Bonjour Marie-Gabrielle.
Bonjour.
Marie-Gabrielle, tu es formatrice au sein d'un centre de formation pour adultes et tu as également co-créé il y a 12 ans à Montauban l'association AVEC, ayant pour objectif d'apprendre le français aux personnes allophones. Tu vas bien sûr nous parler de ton parcours et des valeurs qui nourrissent ton engagement associatif et social, et puis nous parler de ton message positif qui est le suivant: s'ouvrir sur le monde de chez soi. Alors, l'ouverture aux autres, ce n'est pas forcément voyager, n'est-ce pas, Marie-Gabrielle?
Ah ben non, c'est s'ouvrir aux autres, c'est pas voyager. D'ailleurs, j'ai jamais très trop voyagé, donc et je pense être ouverte aux autres. Mm-hmm. Je pense.
Alors, ça veut dire que c'est un état d'esprit?
Oui, c'est un état d'esprit. C'est une curiosité. Mm-hmm. Une curiosité de l'autre, de la manière de vivre des autres, de l'autre étant mon voisin, étant plus éloigné, mm-hmm. Voilà, l'autre en général.
Une posture dans la vie, une posture d'ouverture, les bras ouverts, on pourrait avoir cette image. Les bras ouverts, les oreilles grandes ouvertes également.
Les yeux ouverts, oui.
Alors, il faut dire que dans ton métier de formatrice, tu rencontres tout type d'élèves, de tout horizon, de tout âge. Mm-hmm. Ce sont ces élèves au cours des années qui t'ont appris l'ouverture d'esprit en quelque sorte?
Ah oui, je pense. Alors je pense que après, si j'ai fait ce métier, c'est parce que justement j'avais envie de ça. Mm-hmm. Et je pense que à chaque fois je suis nourrie justement par l'autre et la curiosité est toujours grandissante.
C'est un cercle vertueux.
Voilà, exactement.
Ouais. Des dispositions au départ, une curiosité naturelle, et puis qui vient nourrir l'ouverture d'esprit. Alors elle ne fait que grandir, cette ouverture d'esprit.
Oui. C'est vrai que quand on s'intéresse en fait à l'autre, hein, l'autre étant, comme je disais tout à l'heure, mon voisin. C'est vrai que moi après dans mon métier, je suis amenée à voir des personnes de tous horizons, mais ne serait-ce que mon voisin a une manière de voir la vie qui est certainement différente de la mienne. Mm-hmm. Donc du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est quelle est cette manière-là, comment est-ce qu'il voit lui la vie, et mm-hmm. Est-ce que du coup moi ça fait bouger mes représentations ou pas? Est-ce que je peux faire bouger les siennes aussi? Ouais. Je sais pas.
D'accord. Confronter les différentes visions que l'on a du monde.
Exactement.
Ouais. Les confronter, mais quand on parle de confrontation, c'est pas la bagarre, hein.
Non.
C'est rencontrer les différentes représentations et puis échanger. Hein, tu considères d'ailleurs que ton métier de formatrice, ce n'est pas de la transmission de savoir, c'est de l'échange.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer ça?
Ah ben, eh bien, c'est-à-dire que la transmission pourrait être à sens unique. Mm-hmm. Alors que moi, ce métier, je le trouve très très intéressant parce que justement, il est à double sens, hein, et qu'il y a du coup un échange de. Eh bien, justement de cette confrontation qui n'est pas une bagarre mais plutôt une vision commune de l'autre, enfin une vision pas commune justement mais comment
partager
mm-hmm. Voilà, et qui va m'enrichir autant que ce que j'espère je vais pouvoir enrichir mm-hmm. l'autre, quoi.
Alors qu'est-ce qu'ils t'apprennent par exemple tes élèves?
Qu'est-ce qu'ils m'apprennent mes élèves? Pour partir du basique, on va dire, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de personnes de plein de pays différents, donc de plein de cultures différentes, donc du coup je sais pas moi des coutumes qui vont être très différentes selon le pays. Exemple, on parle du mariage, par exemple. Alors, mmh. comment ça se passe en France? Comment ça se passe dans plein d'autres pays? C'est très, très différent d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Donc, mmh. c'est très intéressant. Rien que ça est intéressant pour comprendre, justement, la vision qu'on peut avoir du mariage, par exemple. Je parle du mariage, ça peut être aussi des enterrements, ça peut mmh. être aussi la naissance, ça peut être plein de choses.
D'accord. Tu m'as dit en préparant l'émission que l'andragogie est basée sur l'échange. Alors qu'est-ce que l'andragogie?
C'est le nouveau lexique.
Ouais.
Enfin, pas si nouveau que ça. Étymologiquement parlant, la pédagogie s'adresse aux enfants alors que l'andragogie s'adresse aux adultes. Mm-hmm. Donc, effectivement, quand on parle de formation pour adultes, ben, on va parler d'andragogie plutôt que de pédagogie.
D'accord. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien ce que tu me dis, dans la pédagogie, on va plus parler d'une transmission de savoir, donc un peu à sens unique, alors que dans l'andragogie, c'est plus un effet de vase communicant parce que l'adulte n'est pas une noix concave.
L'enfant non plus.
Ouf, je suis rassurée.
Non, oui, tout à fait. Non, c'est en fait dans l'andragogie comme dans la pédagogie, chacun va avoir ses méthodes, sa manière de voir les choses et sa manière de penser. Donc, il peut y avoir de la transmission. Mm-hmm. C'est pas non plus un vilain mot, hein, transmission. Attention, hein, je suis pas en train de dire que ceux qui vont voir la pédagogie différemment de moi font mal, du tout. C'est-à-dire que moi, je fais de la formation. Parce que la formation m'enrichit, parce que la pédagogie ou l'andragogie va m'enrichir, parce que je la conçois comme un échange. Après que d'autres la conçoivent comme de la transmission, pour moi c'est pas tabou non plus, hein, c'est pas un gros mot.
D'accord.
Mais c'est pas ma manière de voir la formation, moi et de la faire.
Quoi. D'accord. En tout cas, dans ton esprit, pour qu'une personne assimile un concept, une nouvelle langue, etc., elle doit s'approprier cela et donc s'approprier quelque chose, c'est basé sur un échange.
Mais complètement, et puis s'approprier une notion, s'approprier une thématique, la vivre. C'est vrai que si on part de ce que savent faire les personnes, donc adultes que je vais avoir en cours par exemple, si je pars de ce qu'elles savent faire pour aller chercher de nouvelles choses, j'ai l'impression que ça va mieux fonctionner, ça va être beaucoup plus efficient que si moi j'essaie d'apporter un truc nouveau, pof, comme ça, sans que avant on ait pu y voir un rapport avec la choucroute, mais c'est ça.
Alors justement, partir de ce que l'on sait faire. Tu m'as donné un exemple sur une histoire de chaussettes. Ça va parler aux auditeurs, ça.
Mais, oui. Alors. Effectivement, j'étais amenée du coup dans des cours d'alphabétisation, c'est-à-dire pour des personnes qui n'ont jamais été scolarisées, jamais, donc qui c'est assez difficile pour nous qui l'avons été d'assimiler, de se rendre compte de ce que c'est que de ne jamais avoir été à l'école, donc de ne pas avoir plein de connaissances qu'on a l'impression presque qu'elles sont innées pour nous, hein. Bon. Et je devais traiter, donc l'histoire des chaussettes, c'est comment aborder les nombres pairs avec des personnes qui ne sont jamais à l'école, mais qui sont jamais allées à l'école, mais qui sont adultes, et donc qui ont plein de compétences qu'elles ne savent pas forcément, qu'elles ne connaissent pas forcément. Et donc les nombres pairs, c'est ça. Si je vous dis 2, 4, 6, 8, c'est bien joli, mais c'est assez abstrait, 2, 4, 6, 8, 10, bon... Alors que pour se rendre compte de qu'est-ce que c'est qu'un nombre pair, bah déjà au niveau du vocabulaire, on utilise le mot paire. Qu'est-ce que c'est qu'une paire? Une paire de chaussures, une paire de chaussettes, etc. Donc on était déjà là. Et puis du coup, l'idée m'est venue d'apporter mes chaussettes à trier, en fait. Bon, propre, évidemment. Hein. Et donc j'ai amené des chaussettes. Et déjà, je leur ai demandé de les compter. Puisque tout d'abord, combien est-ce qu'il y a de chaussettes? Ensuite, on fait des paires. Combien est-ce qu'il y a de paires? Et essayer de faire le rapport entre les paires et les chaussettes uniques. Et puis ensuite, si j'enlève une chaussette, combien il y a de chaussettes? Et donc du coup, combien il y a de paires? Et il me reste une chaussette. Enfin,
d'accord. Voilà.
Tout ça, aborder les nombres pairs, mais de manière pratique, et puis surtout se rendre compte qu'on on le fait au quotidien, et que donc du coup c'est quelque chose qu'on connaît. Il suffit juste de le ramener en fait à quelque chose de plus abstrait, les mathématiques.
D'accord, ok. Alors, on parlait tout à l'heure des représentations. Tout le monde a ses propres représentations du monde. Et on réalise pas, en ayant nos propres représentations, que l'autre, le voisin d'à côté ou dans le pays d'à côté, il n'y a pas exactement les mêmes représentations. C'est quoi pour toi une représentation du monde? Comment tu définirais ça?
Damned. Comment je définis la représentation? Mais c'est la représentation que je peux avoir du monde, c'est l'idée que je m'en fais. Mmh. D'après tout ce que j'ai pu emmagasiner comme information, comme connaissance, comme compétence avant. Mmh. Et avant maintenant, de ma naissance à maintenant, mais peut-être aussi ce qu'ont emmagasiné mes parents et mes aïeux et les personnes de mon entourage.
Ouais. C'est une sorte de carte, en fait. C'est un schéma du monde tel qu'on se le...
C'est ça, oui, très bien.
Tel qu'on se le représente. Mmh.
Exactement.
Ouais.
Exactement. Et du coup, ce schéma, il dépend de tellement de choses. Donc, mmh. je disais, de ma culture, de la culture d'où je viens, de ma famille, de mes apprentissages, de mes expériences et tout ça. Que d'une personne à l'autre, en fait, ces représentations, elles vont être très différentes.
Oui.
Elles peuvent être très différentes. Et que, déjà, si je prends conscience que ces représentations, les représentations que j'ai vont être différentes des tiennes, par exemple, ça m'ouvre une perspective vers les tiennes. Tiens, alors si elles sont différentes, comment elles sont les siennes? Comment sont ces représentations? Confrontons-les, donc mettons-les plutôt à côté et puis essayons d'en parler, pourquoi et comment. Et c'est ce qui est très intéressant justement dans cette idée-là, c'est que du coup, on peut faire... mes représentations ne sont plus les mêmes maintenant que ce qu'elles étaient il y a 10 ans ou 20 ans.
Oui. C'est comme s'il y avait un monde, une planète, et puis que chacun, on a une carte Michelin qui tente de représenter le monde, mais sauf que sur la carte, on n'a pas tous dessiné la même chose, quoi.
Mais voilà.
Et on a tendance à croire que le monde, c'est notre carte, alors que le monde, c'est pas ce qu'il y a dessiné
c'est
sur la carte.
Toutes les cartes. Hein. Et voilà, oui.
Allez, on va inviter Georges Brassens dans la conversation parce qu'il a quelque chose à nous dire aussi sur la représentation du monde. Il chante la balade des gens qui sont nés quelque part.
C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts. Leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité. Et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leur rempart. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leur clocher qui vous montre leur tour, leur musée, leur mairie, vous font voir du pays natal jusqu'à Loucher, qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète ou du diable Vauvert ou bien de Zanzibar. Ou même de mon cul, ils s'en flattent mazette. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Le sable dans lequel douillettent leurs autruches enfouissent la tête. On trouve pas plus fin quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leurs baudruches, leurs bulles de savon. C'est du souffle divin. Et petit à petit, les voilà qui se montent le cou jusqu'à penser que le crottin fait part. Leurs chevaux, même en bois, rend jaloux tout le monde. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. C'est pas un lieu commun, celui de leur naissance, ils plaignent de tout cœur les pauvres malchanceux, les petits maladroits qui n'eurent pas la présence d'esprit de voir le jour chez eux. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire contre les étrangers, tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou. Pour mourir à la guerre, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Mon Dieu, qu'il ferait bon sur la terre des hommes si l'on y rencontrait cette race incongrue, cette race importune et qui partout foisonne, la race des gens du terroir, des gens du cru. Que la vie se révèle en toutes circonstances si vous n'aviez tiré du néant ces jobards. Preuve peut-être bien de votre inexistence, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part.
La balade des gens qui sont nés quelque part, Georges Brassens, choisi par Marie-Gabrielle Brun, aujourd'hui au micro d'Ondes Positives. Alors on parlait de représentation, qu'est-ce qu'elle représente cette chanson pour toi Marie-Gabrielle?
Justement, il dit les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, c'est plus ceux qui justement sont nés quelque part ont leur représentation et les gardent bien pour eux. Mm-hmm. Voilà. Et avec le verbe de Brassens que je n'ai pas.
Mm. Il parle des gens bornés en fait. Hein. Oui. Imbéciles heureux qui sont nés quelque part et qui veulent pas voir le monde.
C'est ce que je trouve mignon avec l'expression imbécile heureux, c'est que c'est pas justement on n'est pas dans le coup de poing des gens bornés.
Ouais.
C'est plutôt, c'est vrai que c'est agréable en même temps, c'est pour ça qu'ils sont heureux, mm-hmm. parce que c'est agréable de se dire qu'en fait tout le monde est pareil, on est tous les mêmes, tous dans nos représentations, les gens différents, du coup on les voit pas ou les endroits différents n'existent pas, mm-hmm. et tout. Ce serait agréable, sauf que dès qu'on est confronté à la différence, ben on la comprend pas.
Mm-hmm.
Donc du coup, ce sont des imbéciles heureux.
La remise en question est toujours plus compliquée que la non remise en question.
Mais oui, ça demande un peu plus de travail.
Alors on est tous nés quelque part. L'objectif est ensuite de s'ouvrir à ce qui se passe ailleurs, à des façons de penser différentes pour comprendre et ne plus avoir peur.
Mm-hmm.
Ton credo, c'est que tout est intéressant, tous les gens ont quelque chose d'intéressant, toutes les cultures sont intéressantes. Alors j'aimerais que tu nous racontes comment tu as eu l'idée de créer l'association AVEC, qui est complètement tournée vers les autres. Comment tout a commencé?
Alors, l'association AVEC est née en fait de la volonté de travailler. Moi, je travaillais dans une autre structure qui n'existe plus maintenant.
Mmh.
Et avec une collègue, on avait envie de faire beaucoup de projets. Enfin, on avait plein de projets. Et lorsqu'on est sorti de l'autre structure dans laquelle on travaillait, ben on a eu envie de mettre tous ces projets en marche.
Mmh.
On a été du coup bien soutenu par par un bureau, puisqu'une association c'est un bureau et des salariés, donc un président et un trésorier qui ont été vraiment très très partie prenante du projet, tout en nous laissant y mettre ce qu'on avait envie d'y mettre.
Mmh.
Voilà. Donc, on a pu commencer à travailler sur des projets qui nous tenaient à cœur avec cette collègue. Donc,
d'accord. Collègue le premier
Bernadette.
Projet que vous avez eu, c'était de créer un alphabus.
Oui, mais alors celui-là n'a pas vu le jour.
Ouais. C'est un bus d'alphabétisation, c'était ça?
Mais voilà, l'idée c'est que on se rendait compte que si sur Montauban ou des villes comme ça, des choses pouvaient être faites parce que ben il y avait pas mal de public concerné par l'alphabétisation par exemple,
mm-hmm.
ou l'analphabétisme plutôt. Lorsqu'on s'éloigne de Montauban, lorsqu'on allait dans les campagnes et ma foi le Tarn-et-Garonne est quand même très rural,
mm-hmm.
on se rend compte que ben, c'était impossible de vraiment former un groupe dans un village parce qu'il n'y avait pas assez de monde pour former ce groupe.
D'accord.
Donc du coup, on s'est dit, mais ce serait merveilleux si on pouvait avoir un bus. Alors le rêve était si on pouvait aménager ce bus en salle de cours
mm-hmm.
À l'arrière, que on puisse avoir des passagers quand même à l'avant, un chauffeur évidemment. Hein, ça,
mm-hmm.
Le mieux serait carrément un bus anglais hein, avec une terrasse sur le toit, mm-hmm. si on peut rêver.
Mm-hmm.
Et surtout qu'on puisse bah, du coup faire tous les villages d'une localité en fait, et on pourrait du coup faire un ramassage des stagiaires et puis s'arrêter où on voudrait Bah tiens, aujourd'hui, on va visiter la campagne autour de Bruniquel ou le château de Bruniquel et on va poser l'alphabus au pied de Bruniquel. On fera le cours là et on ira faire une visite en même temps. Donc ça, c'était le rêve.
D'accord.
On l'a pas fait.
Bon, ce rêve n'a pas vu le jour, mais on en parle quand même parce que si un investisseur qui nous écoute est intéressé, il n'est jamais trop tard, n'est-ce pas?
Ah ben, alors, jamais.
Alors bon, du coup, l'école itinérante n'a pas vu le jour, mais l'association s'est établie quelque part dans des bureaux à Montauban. Quel est l'objectif de l'association aujourd'hui après 12 ans de cours d'alphabétisation?
Eh bien, donc à l'association avec, les objectifs sont toujours les mêmes, c'est-à-dire permettre à toute personne, dans notre spécialité évidemment, d'accéder à la formation. Donc nous, notre spécialité, c'est la formation linguistique, c'est aussi ce qu'on appelle les compétences clés, ou en tout cas une compétence de base, on va dire, français et calcul.
Alors, je te coupe, mais tout à l'heure, j'ai parlé des personnes allophones. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une personne allophone?
Ça relève aussi de tout le lexique. On parlait d'andragogie tout à l'heure, personne allophone. Mais c'est un terme qui est intéressant parce que on parle de personnes francophones, c'est les personnes qui vont parler français, hein, francophone, français. La personne allophone, c'est la personne qui ne parle pas la langue du pays d'accueil.
D'accord.
Donc en France, ce sera la personne qui ne parlera pas français.
Ok. Voilà. Donc des formations linguistiques pour ces personnes allophones. Des formations élémentaires sur du calcul, tu nous disais.
Voilà, du calcul et du français. Ce sont des formations anciennement savoir de base, et c'est tout ce lexique évolue en fonction de ce que on veut mettre. Avant on disait un apprentissage linguistique, on disait des connaissances, la connaissance de la langue, alors que maintenant on va plutôt parler de compétences parce qu'on est plus dans l'actionnel, et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, hein, c'est d'être dans l'actionnel. C'est qu'est-ce que je sais faire en français plutôt que qu'est-ce que je sais dire en français.
Oui, parce que ensuite l'objectif, c'est que ces personnes s'insèrent dans la société, soient autonomes, trouvent un travail, etc.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut, on va apprendre une langue comme moi, par exemple, j'ai appris l'anglais à l'école. J'étais en France et j'ai appris une langue étrangère. Du coup, le côté culturel, le côté fonctionnement du pays, c'est pas quelque chose qu'on aborde forcément à l'école.
Oui.
Alors que lorsqu'on apprend une langue pour vivre dans le pays en question, donc lorsque ces personnes viennent avec pour apprendre le français, elles vont apprendre le français, mais elles vont aussi apprendre le fonctionnement du pays, rencontrer la culture du pays. Et là, on va encore parler de confronter les représentations, mais oui, elles aussi, elles vont être amenées à confronter leurs représentations avec les nôtres.
Ouais. Alors, justement, tu m'as donné un autre exemple sur un groupe de femmes en cours d'alphabétisation. Tu abordes des sujets de société, évidemment, et notamment, tu as abordé le sujet du foulard. Alors, qu'est-ce que tu as constaté de cette expérience?
Alors déjà, c'était posé la question de, est-ce qu'on interdit, est-ce qu'on n'interdit pas le port du foulard avec. Et très vite, je me suis dit, bah, si on interdit le port du foulard avec, bah, les personnes ne viendront plus. Et puis voilà, point.
Donc ça, c'est garder sa représentation du monde et l'imposer aux autres.
Voilà, exactement. Et aux autres qui, du coup, prennent ou prennent pas.
Qui gardent eux aussi leur représentation du monde.
Bien sûr. Et c'est là où, justement, confronter leur représentation, c'est pas imposer une représentation.
Oui.
C'est vrai. C'est justement pouvoir comparer les représentations, comparer les cartes dont tu parlais tout à l'heure. Et donc, du coup... plutôt que d'interdire le foulard, plutôt que de dire il faut pas mettre un foulard, alors que ma foi, qui suis-je pour dire il faut pas mettre un foulard? C'est, enfin, l'idée et ce dont on parle très souvent, hein, c'est pas juste une fois, c'est vraiment un sujet qui peut revenir souvent. C'est pourquoi vous le portez? Pourquoi est-ce qu'on porte le foulard? Pourquoi est-ce que vous, vous portez le foulard? Qu'est-ce que vous en pensez? Etc, etc. Ce qui fait avancer beaucoup plus les choses, parce que du coup, je comprends mieux pourquoi on va porter le foulard. Et puis, je comprends mieux pourquoi je le porte pas. et puis surtout, du coup, on peut en discuter. Les choses peuvent évoluer.
Et puis le groupe, j'imagine, ne parle pas d'une seule voix. Plusieurs voix se font entendre dans le groupe. Et dans ce même groupe, plusieurs personnes portant le foulard, par exemple, peuvent le porter, mais pour différentes raisons, différentes motivations profondes ou pas.
Tout à fait. Tout à fait. Différentes motivations, profondes ou pas, différentes raisons, qu'elles soient culturelles, religieuses, familiales, parce que tout s'entremêle en fait, hein, du coup. Moi, je dirais que quand elles me demandent alors pourquoi je pose la question, des choses comme ça, enfin souvent je réponds, mais surtout pourquoi est-ce que c'est toujours les femmes ? et du coup, on se retrouve beaucoup plus souvent sur le terrain de l'égalité homme-femme, femme-homme, plutôt que sur un terrain religieux où du coup, confronter des croyances, du coup, c'est assez compliqué, assez différent.
D'accord. Donc, ces sujets réveillent en toi un engagement d'il y a longtemps.
Ah oui. oui. Je crois que j'ai toujours été féministe, je pense. Hein.
Oui.
Je pense. Après, je l'ai peut-être jamais, pas toujours dit comme ça, quoi.
Comme il est étrange qu'une jeune fille qui a toujours été féministe se retrouve à donner des cours d'alphabétisation à des groupes qui sont en majorité féminins.
Ah ben,
la vie est bien faite. Hein.
Voilà, exactement. Mais là, pour le coup, c'était choisi. C'est-à-dire qu'avec, effectivement, en cours de français, dans les cours de linguistique, formation linguistique, on a choisi dès le départ de s'orienter vraiment vers les femmes, vers un public féminin, parce que c'était un public qui était beaucoup plus statistiquement, hein, sans vraiment là pour le coup, statistique à l'appui, les femmes sont beaucoup plus en difficulté par rapport à l'emploi, par rapport à l'alphabétisation dans le monde, par rapport à beaucoup de choses. Donc du coup, voilà, nous on a choisi de se tourner vraiment vers les femmes.
D'accord. Alors, puisque l'on parle de ton engagement de jeunesse, de Marie-Gabrielle féministe, eh bien, on va écouter Higelin et Brigitte Fontaine qui te rappellent tes jeunes années. On est là pour ça.
Trop loin, plus en pleurer.
Micheline et Brigitte Fontaine, on est là pour ça et c'est Marie-Gabrielle Brun qui a choisi de les mettre à l'honneur aujourd'hui dans Ondes Positives. On est là pour ça, on est là pour quoi, Marie-Gabrielle?
En l'occurrence, dans la chanson, on est là pour lutter.
Dit-elle en brandissant le poing.
Au départ, non, c'est ce qui est très bien dans cette chanson, c'est qu'au départ, on est des agneaux. Mm-hmm. On est là pour ça, mais attention, attention, l'agneau deviendra loup.
Mm-hmm. Quelle est ta motivation personnelle? On a parlé des objectifs de l'association, mais ta motivation personnelle dans tout ça?
Ma motivation personnelle, alors peut-être, on va dire, d'un point de vue pratico-pratique, c'est de pouvoir voyager sur place. Mm-hmm. Déjà, ça c'est intéressant.
C'est ton message positif de départ, hein, voyager de chez soi.
Mm-hmm. Exactement. Ensuite, faire du bon travail, déjà. Mm-hmm. Justement, cette curiosité, pouvoir assouvir, mais ça n'arrivera jamais, cette curiosité de l'autre que je peux avoir et avoir un terrain là pour le coup intéressant pour pouvoir être curieuse.
Mm-hmm. Mm. Et puis faire avancer les choses aussi, j'ai l'impression.
Et puis alors après ça effectivement continuer être féministe par
ouais.
exemple pouvoir faire quelque chose. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir de mettre en place comme ça des actions qui vont me permettre effectivement d'assouvir un peu ce côté militant, ce militantisme.
Alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi être féministe dans ta représentation?
Dans ma représentation, c'est dans ma représentation, il n'y a pas de différence en droit entre les hommes et les femmes. Et mmh. les femmes et les hommes. Mmh. On est tous égaux en droit. C'est assez étonnant de dire ça dans mes représentations, car normalement, ça fait partie des articles des droits de l'homme.
Oui.
Malheureusement, pas forcément toujours appliqué. Et donc, du coup, rester vigilante, rester et essayer de faire à mon échelle, hein, si c'est possible, à notre échelle avec, avancer le schmilblick.
Mmh. Donc, pour toi, ton engagement, c'est œuvrer pour faire en sorte que les droits et devoirs des femmes soient identiques à ceux des hommes.
Bien sûr.
C'est le leitmotiv. Hein.
Oui, c'est vrai qu'on parle souvent d'égalité. On n'est pas égaux, mais personne. Je veux dire, nous deux, nous sommes deux femmes, mais on n'est pas égales, on n'est pas identiques, on n'est pas nés au même endroit, on n'a pas les mêmes acquis, on n'a pas les mêmes ressources. Enfin bon, donc l'égalité, c'est souvent ce qui est contre-argumenté en direction des féministes. On dit, mais non, c'est pas vrai, les hommes et les femmes ne sont pas égaux.
Mmh.
Alors, d'accord, mais personne ne l'est. En revanche, on doit avoir tous les mêmes droits, les mêmes devoirs.
D'accord.
Et du coup, il faut continuer à lutter pour que nous ayons les mêmes droits, les mêmes devoirs, pour que ce soit appliqué surtout.
Mm-hmm.
Parce que dans les textes, en France, on a les mêmes droits, les mêmes devoirs.
Mm-hmm. Sauf que concrètement, sur le terrain, ça se passe pas forcément comme ça.
Ben non.
Tu dis que l'engagement féministe est universel. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Mais c'est que, malheureusement, ce problème d'égalité entre les femmes et les hommes existe dans tous les pays.
Mm-hmm.
Je ne vois pas, pour moi, c'est à la limite quelque chose d'universel, parce que dans partout où on peut aller, partout on va constater cette inégalité entre les femmes et les hommes.
Il y a toujours une discrimination, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, le niveau social du pays,
ah oui.
Le niveau d'industrialisation, la culture, etc.
Ah oui.
Mmh. Mmh. Alors c'est pour cela que l'association AVEC s'occupe essentiellement de l'alphabétisation d'un public féminin, tu nous l'as dit, parce que on le constate, c'est le public le plus défavorisé.
Mm-hmm.
En tant que formatrice pour adultes en reconversion dans des organismes de formation qui n'ont rien à voir avec l'insertion sociale, donc tu touches à la formation professionnelle et au retour à l'emploi, qu'est-ce que tu observes en matière d'égalité des droits entre les femmes et les hommes? Ma question était longue.
Oui. du coup, j'ai perdu le début. Dans d'autres organismes de formation, tu veux dire, où je dans lesquels je travaille, qu'est-ce que je peux constater
Ou en matière de retour à l'emploi, est-ce que tu constates qu'il y a une discrimination en fait envers les femmes ou on n'est plus là-dedans?
Les chiffres de toute façon montrent bien que les femmes sont plus en difficulté par rapport à l'emploi. C'est ce que je disais tout à l'heure. On va avoir beaucoup plus de travail précaire pour les femmes. On va avoir beaucoup plus de CDD. On va avoir du coup forcément des licenciements ou en tout cas des arrêts de travail plus fréquents, puisque une personne en CDD, c'est même pas une personne licenciée, c'est une personne dont le contrat se termine.
Oui.
Donc voilà, ça c'est les chiffres qui le disent, c'est même pas mon expérience. Après effectivement, je vois beaucoup de femmes en formation.
Oui.
Beaucoup. Que ce soit alors formation linguistique, mais bon là pour le coup c'est la spécialité d'avec, mais dans les autres formations effectivement c'est beaucoup de femmes.
D'accord. Est-ce que les femmes sont ont des représentations machistes encore?
Bien sûr,
parce que souvent on dit les hommes sont des machos, ils dénigrent les femmes, ils ne laissent pas les femmes s'exprimer comme elles le devraient, mais les femmes entre elles, qu'en est-il?
C'est pareil. J'aurais tendance à dire que si toutes les femmes étaient féministes, c'est-à-dire tout simplement si toutes les femmes avaient vraiment intégré dans leur représentation que les hommes et les femmes avaient les mêmes droits et les mêmes devoirs, il y aurait plus de problème. Parce que ce sont les femmes qui élèvent les enfants, donc qui élèvent les hommes. Et à mon avis, si on avait tout intégré ça, ce serait fini du machisme.
Ouais.
donc bien sûr, mais c'est on en revient un petit peu à ce qu'on disait au début, c'est une histoire de représentation. C'est très difficile de faire bouger les représentations qui vont nous laisser croire, ces fameuses représentations, que par exemple c'est normal que la femme ait une double journée, par exemple, parce que c'est son rôle, c'est naturel, la femme doit s'occuper du nid et du repas et tout ça. Donc du coup, une femme qui travaille va faire une double journée et c'est normal. Et la plupart du temps, dans nos représentations, on trouve ça normal.
Oui, si c'est intégré.
Voilà. Si on se révolte, on est même regardé d'un air un petit peu bizarre. Non, mais quand même, qu'est-ce qu'elle fait?
Donc il suffit de prendre la gomme et puis de rayer certaines lignes de la carte.
Non, mais c'est pas simple.
Mais c'est possible, c'est ça le message positif.
Ah bah oui, c'est pas simple, c'est mais justement c'est possible et puis on y travaille et tout le monde peut y travailler, même les hommes. Ce qui est bien, c'est que le féminisme, c'est pas une affaire que de femmes, je pense.
Ouais. Il y a une marge de progression, il y a du travail à faire, mais on est dans le bon chemin.
Bien sûr.
Allez, c'est normal maintenant d'écouter une voix de femme. C'est tout naturel après tout ce que l'on a dit. Tu as choisi Yael Naïm, I Walk Until. I walk until, I walk until drops. I walk until you grow. I walk until, I walk on tiptoes. I feel like I'm starting down an endless road. Wake up. I Walk Until. C'est Marie-Gabrielle Brun qui a choisi d'écouter ce morceau dans Ondes Positives aujourd'hui. Alors Marie-Gabrielle, qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette chanson ou cette chanteuse?
Mais déjà, je trouve que c'est un morceau qui donne envie de bouger, qui est très très gai. Donc déjà, ça c'est j'aime beaucoup. Et cette chanteuse, mm-hmm. faut que je fasse les chaussettes de l'archiduchesse. Cette chanteuse, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup sa voix. Je voilà. Déjà, mm-hmm. En ce moment, j'écoute beaucoup Yael Naïm.
D'accord. Et puis, merci pour ce morceau, parce que le titre est évocateur. I walk until, je marche mm-hmm. jusque. Alors,
oui.
Toi qui parlais de voyage, de s'ouvrir sur le monde, mais c'est une belle, un beau titre pour finir cette émission. Marcher jusqu'au bout du monde.
C'est vrai. ou laisser ouvert, justement. Marcher jusque.
Ouais.
Jusqu'à.
Jusqu'à, et on ne finit pas la phrase, parce que voilà. Finalement, il n'y a pas de limite. Hein.
Ben voilà, hein? C'est ça qui est intéressant.
Est-ce que tu peux nous donner, Marie-Gabrielle, les coordonnées de l'association AVEC pour toutes les personnes intéressées et voulant savoir plus sur vos actions?
Alors, les coordonnées, déjà, nous avons un site, mm-hmm. un site internet, dont l'adresse est www.assoavec.com.
D'accord.
Donc ça c'est le site internet dans lequel on essaie de tenir informé des dernières choses qui ont été faites à AVEC, dans lequel vous pouvez avoir d'ailleurs des productions écrites de stagiaires allophones.
Oui.
dans lequel on va pouvoir aussi voir quelles sont nos valeurs, quelles sont nos actions, quelles sont avoir beaucoup d'informations. Il est assez complet, puis surtout on essaie de le mettre à jour relativement souvent.
D'accord. Alors tu parles au pluriel, tu dis on, parce que c'est avant tout un travail d'équipe, cette association.
Mais voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est moi qui parle, mais en fait on est plusieurs. Mm-hmm. Tout à l'heure je parlais donc de Bernadette qui m'accompagne depuis le début sur l'association, qui est aussi la coordinatrice pédagogique de l'association. Et puis, nous avons aussi trois formatrices en ce moment. Nous sommes cinq. Mm-hmm. Alors, c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps cinq personnes avec, cinq formatrices, parce que ça dépend de l'argent qu'on nous donne, des subventions qu'on va obtenir. Mm-hmm. Mais voilà, c'est un travail d'équipe et c'est vrai que c'est important de le souligner. Toute seule, je pourrais rien faire.
on peut vous rencontrer, pardon, au 17 rue d'Albert.
Oui.
C'est toujours ouvert, ça fonctionne comment? Il y a des horaires d'ouverture?
Alors, généralement, c'est toujours ouvert, et il y aura toujours une formatrice pour répondre aux questions, ou en tout cas donner un rendez-vous si jamais on a besoin de s'inscrire ou d'être mm-hmm. positionné. Le 17 rue d'Albert, c'est dans le quartier de Ville Nouvelle Hôpital.
Oui.
Donc c'est centre-ville, et c'est, je trouve, un endroit très agréable parce que justement centre-ville, donc on a des personnes qui viennent de à peu près tous les quartiers de Montauban mm-hmm. et ça c'est vraiment agréable d'avoir des personnes qui viennent de partout et non pas de rester confinées dans un quartier précis
de banlieue quelque part.
Voilà.
Merci beaucoup Gabrielle, je te remercie pour ton témoignage, ton ouverture sur le monde. Merci d'ouvrir des fenêtres et des portes pour que l'on voit ce qui se passe à côté.
Ben merci de m'avoir reçu.
Chers auditeurs, vous l'avez compris, il est possible de s'ouvrir sur le monde, aller à la rencontre d'autres cultures, échanger avec les autres, comprendre leurs représentations pour ne plus avoir peur. C'est possible ici, à côté de chez vous, à la maison. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée dimanche à 20h et que vous pouvez la réécouter également en podcast sur cfmradio.fr, rubrique les émissions, émissions ondes positives. Vous pouvez aussi me contacter si vous avez envie de venir donner votre message positif à l'adresse mail suivante dag@saccomplir.com. Je vous souhaite en attendant une belle semaine dans l'ouverture aux autres et à mardi prochain.
The king. One minute I held the key. Next the world. C'est bon pour ce que vous avez.
C'est bon pour ce que vous avez.
CFM. L'esprit rock.